Radio Courtoisie, histoire à la loupe. Vous écoutez les histoires à la loupe sur Radio Courtoisie. Voici la sixième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
C'était décidé. Elle n'y mettrait plus le pied, ni même le doigt de pied. Trop de dangers, trop d'aléas, trop d'attentes infructueuses.
Non, ce n'est définitivement pas pour moi.
C'était dit la quinquagénaire. Mais ça, c'était avant. Avant que Patricia Benatar fasse une nouvelle approche.
Tout, c'est pas la dernière. Quelle dernière? Abdoulouafat, le malfrat, qui t'a réussi à faire coincer. Oui, et alors? Il s'est décoincé. Comment ça? Il a passé un deal pour collaborer avec la justice, comme est repenti. Mais c'est bien ça? Oui, jusque-là, c'est bien. Mais après, il en a profité pour se faire la belle quand on l'a transféré dans la prison chez les Tchouges. Et il a disparu de la circulation. On dit qu'il se serait taillé au Maroc et qu'il aurait repris là-bas un business juteux, mais peu recommandable.
Soucieuse de ménager ses effets et de stimuler l'oreille de son auditrice, la Benatar fit une pause.
Quel business? Enlèvement d'entrepreneurs, des cryptomanies. Hé, Marie-Jo, t'aurais pas envie de reprendre la chasse? Comme t'as déjà fait? Oh non, j'arrête. Ah, je sais bien que t'arrêtes. Seulement là, il s'agit pas d'arrêter, mais de terminer un dossier qui s'ouvrait malgré toi. Et de retrouver cette canaille, bon sang. Faut pas laisser ces pays s'américaniser. C'est un processus de corruption générale qui est en cours par ces voyous et ces sbires.
Et, telle Cassandre, Patricia Benatar se lancha dans une diatribe fulminante et dévorante sur les dangers de l'inaction, de la passivité, de la mélancolie, de la timidité, et aussi sur la nécessité de clore un dossier qui s'était rouvert et de le conduire à bonne fin, quoi qu'il en coûte. De ne pas s'excuser, de demander pardon, bordel. Que c'était malsain de se laisser contaminer par quelque effroi inguérissable et paralysant, ou par une mystérieuse maladie de l'âme. Que la vie, c'était pas d'applaudir poliment à ce qui se passait et de subir toutes ces déconvenues sans réagir.
On est des perfectionnistes toutes les deux. Faut pas laisser notre œuvre inachevée, salie, un échec. C'est pas ton style, Marie-Jo.
Qu'elle lui dit tant et plus, au point de la convaincre, ultimement, de faire un tout dernier effort.
Oh, d'accord. Mais après, j'arrête.
Proclama-t-elle, et elle se mit en marche. Il s'agissait maintenant de mettre le grappin sur Abdoulouafat, ce qui ne serait pas facile. Et cette difficulté, redonnait à Marie-Josette de Liégeois du cœur à l'ouvrage.
Ah, me voici de nouveau en route pour une nouvelle aventure.
Se disait-elle avec un ardent enthousiasme. Aussi, l'appel de Roger Tournafond fut bienvenu. Surtout lorsqu'il lui précisa tous les détails des informations qu'Abdul Wafat lui avait extorquées. Il lui en donna la liste. Sur la liste, elle repéra un nom connu, celui de David Elbaz, un ponte parmi les crypto-riches.
Ah, c'est certainement lui qu'Abdul Wafat va opérer en premier,
se persuada-t-elle. C'est pourquoi elle prit contact avec l'intéressé qui l'invita aussitôt à venir en causer. Il lui ouvrit la porte lui-même. Marie-Jo se dit en elle-même
« Pas mal ce mec. Si je lui montre mes ponichons, sûr qu'il va avoir envie de me traire.
Mais cette pensée secrète se heurtait à une réalité bien différente. C'était pas du tout le genre de David Elbaz. Et pas non plus l'époque, ni le lieu. Il l'avait reçu boulevard Suchet, sur sa terrasse ensoleillée et exposée au vent qui soufflait du nord-ouest. Marie-Jo aimait recevoir sur le visage ce souffle frais qui lui cinglait la figure et faisait remonter à son cerveau d'excitants souvenirs mêlés de plaisir et de provocation. Assise dans un confortable fauteuil, elle aspirait à plein poumon cette fraîcheur stimulante comme une douce agression qu'elle avait toujours recherchée. Au loin, on entendait le bruit de la fête à Neuneu, la foire installée au bois de Boulogne, avec ses bruits de cirque et ses clameurs d'enfants. Elle lui narra par le menu toute la criminelle équipée de Toulon à Toulouse du Sieur Wafat, à laquelle elle avait participé en qualité de passagère.
« Vous êtes sur la liste? C'est donc à vous qu'il va s'en prendre un de ces jours. »
« Je n'ai pourtant à la maison ni cash, ni or, ni bijoux. »«
Oh, ce ne sont pas ces choses qu'il recherche, mais uniquement les bitcoins, les litecoins, les salles courantes, Uniswap, etc. Car Wafat a été mandaté pour ça. »«
Et pourquoi spécialement moi, plutôt que les autres? Je ne suis pas dans le bling-bling sous les feux de la rampe, et ma vie est d'une austérité spartiate. »
Vous êtes le plus connu. Et surtout, Wafat s'est spécialisé dans un certain secteur. La dernière fois, il incendiait des entreprises appartenant à des Israéliens.
Je ne suis pas israélien.
Non, mais vous êtes de la même religion que les Israéliens.
Ah, et vous pensez qu'il existe un lien?
Wafat agissait pour des Iraniens, donc je ne vous fais pas de dessin.
Parce que derrière, ce seraient les Iraniens.
À ça, je n'en sais rien. Les commanditaires, je ne les connais pas. Mais j'aimerais bien savoir qui c'est. C'est possible que ce soit encore les Iraniens, car ils ont besoin d'actifs qui ne soient pas des dollars pour éviter les Américains, ou des euros pour éviter les Européens. On le découvrira peut-être si vous m'aidez à remonter le fil. Remonter le fil,
se répétait-elle en son fort intérieur.
Je l'ai toujours voulu. C'est comme ça quand on grimpe sur une colline pour arriver à un sommet. C'est pas pour le sommet lui-même. C'est parce que, quand on l'a atteint, on voit mieux tout le paysage environnant et puis on voit alors une autre colline sur le côté un peu plus haut où l'on verra encore mieux, et l'on continue de colline en colline, on se hisse de crescendo en crescendo, faire du toujours mieux.
En quoi puis-je vous aider à remonter le fil, comme vous dites?
David Elbaz avait une idée. C'était son idée pour remonter le fil, mais ce n'était pas la même que celle de Marie-Josette Liégeois. Lui, ce qui l'avait motivé dès le début, c'était de créer un système dans lequel les liens entre les associés seraient indéfectibles comme dans une famille. Dans sa jeunesse, il avait travaillé au sein d'une compagnie d'assurance à prime fixe. Les relations entre assuré et assureur y étaient comme entre client et prestataire de service, c'est-à-dire anonyme. Il avait rêvé de créer une mutuelle. Oui, une mutuelle, dans laquelle les liens ne seraient plus anonymes, mais seraient entre les membres d'une sorte de tontine où l'on mettrait des fonds en commun pour les faire fructifier et qui servirait à indemniser ceux qui subiraient des accidents. Mais il avait finalement abandonné ce projet. Pourquoi ? Parce que l'État y intervenait trop. Parce que l'État réglementait trop les placements, obligeant les assureurs à acheter des immeubles pour garantir leur solvabilité. Son rêve, finalement, se transforma. Entre les membres de cette mutuelle, il fallait échapper à l'État et sortir de la zone euro ou de la zone dollar, sortir du régime des banques centrales pour ne plus être dépendant des aléas conjoncturels des États et acquérir la vraie liberté, celle de la monnaie. Et c'est ainsi que lui était venue l'idée de constituer une société qui concevrait et proposerait à ses adhérents des portefeuilles de crypto-monnaie. Dès son plus jeune âge, il avait joué sur les devises et les taux de change. Il avait gagné un peu sur le Deutsche Mark en achetant au bon moment. Mais il s'était pris un gros bouillon sur la lire italienne. Il avait parié qu'avec l'accession de Silvio Berlusconi au pouvoir, la lire allait grimper. Mais ça ne s'était pas passé comme il l'avait prévu. Et ce fut le gros bouillon. Depuis ce jour, il s'était promis de ne plus jamais spéculer sur les fluctuations des devises, de n'y plus toucher. C'était une façon de ne plus être soumis aux aléas monétaires, d'évaluation ou surévaluation. Et il s'agissait alors d'orienter les investisseurs vers des nouveaux horizons radieux et glorieux qui ne seraient plus ceux des monnaies nationales. Remonter le fil, pour lui, c'était accomplir une mission, car David Elbaz avait, sous son austère cuirasse d'investisseur scrupuleux et rigoureux, une âme de rêveur utopiste. Malgré les montages financiers les plus complexes et les plus rébarbatifs, il savait dépasser par l'imagination les chiffres projetés et les calculs actuariels, accéder à la vision d'une société idéale à atteindre, un phalanstère d'hommes libres, un peu comme dans les romans d'Ayn Rand. Jamais pourtant, il n'aurait imaginé que des bandits, des mafias, des régimes tyranniques ou oppressifs allaient s'intéresser à son système juste pour éviter les sanctions internationales de la civilisation. Jamais il ne l'aurait imaginé un instant. Et cette perspective, maintenant qu'elle lui était ouverte, le mettait en fureur. C'était comme si un voyou venait détruire sa superbe machinerie en la dénaturant, en mettant du mal en elle. Par-dessus tout, il voulait remonter le fil et identifier ces salauds, ces ordures, ces monstres qui défiguraient son œuvre, qui la falsifiaient.
Abdul Wafat ne suffira pas, et comme c'est un taiseux, il ne dira rien même si on le coince.
Comment faire alors ?
Celui qui lui a donné la liste où vous figurez a communiqué avec lui via l'application Signal. Ce qu'il faudrait, c'est se faufiler là-dedans en faisant passer par fouille merde des messages. Des messages faux.
Fouille merde, c'est qui ?
le syndicaliste de Kiwafat a obtenu ses renseignements.
Vous pensez pouvoir y arriver ?
Il ne sera pas très partant, car il a la trouille. Mais au point où il en est, ça n'a plus trop d'importance. Il se dira qu'il a intérêt à éviter les conséquences de ses forfaits. Voilà tout.
Bon, passons dans mon bureau pour étudier la chose de plus près.
Elbache se leva et escorta la quinquagénaire vers son bureau. Elle pensait trouver une pièce moderne, style nickel chrome, avec ordinateur et télévision du style d'un jeune entrepreneur à la page. Mais il n'en fut rien. Quand elle entra, elle fut frappée de voir une bibliothèque avec beaucoup de livres sur les étagères et parfois sous des arches. Et surtout, éparpillée sur la table de travail, une multitude d'objets divers et variés. Minuscules statuettes, petits trophées de compétition sportive, articles de journaux soigneusement découpés, ornements, médailles, perles, gadgets, stylos à plumes à l'ancienne, et même petits sacs de menthe, de romarin, de fleurs séchées, brochures, images, photographies de personnages du passé encadrées par du bois doré, tout un tas de broutilles qui parchemaient les lieux et qui ne correspondaient pas du tout à la stature de l'entrepreneur de start-up.
Ah, ce n'est pas un bureau vide, vraiment pas,
ironisa-t-elle.
Mes ordinateurs ne sont pas là. Ici, j'essaie de penser.
Un cabinet de réflexion, en somme.
Souvent, la technologie est un obstacle. D'ailleurs, j'interdis à mes enfants les jeux vidéo et je les ai placés dans une école qui les proscrit.
Et ils acceptent ?
Au début, ils ont fait la grimace et après, ils se sont habitués.
Vous y retrouvez dans tout ce
foutoir, vous voulez dire ?
Oui.
Je m'y retrouve très bien, car tout est à la même place. La femme de ménage n'entre pas ici, ou presque pas, juste pour vider les corbeilles et la poussière, mais elle ne touche pas aux objets.
C'est dans ce vaste bric-à-brac qu'ils conçurent leur plan d'action. Le dispositif pour piéger Wafat consistait à le faire approcher par tournafond, en lui faisant croire qu'il s'était trompé sur quelques personnes et quelques adresses de la liste. Certaines d'entre elles, dirait-on, n'auraient pas d'actifs numériques, tandis que d'autres en auraient beaucoup plus. À la faveur de cette correspondance qui devait se prolonger, une question devait apparaître.
Tes commanditaires sont-ils intéressés par ces précisions ou par en avoir d'autres ?
Abdul se retournerait nécessairement alors vers ses mandants. Et c'est à ce moment que Fouille Merde devrait utiliser tous ses talents d'artiste pour accéder au cloud d'Abdul, pour pirater sa boîte mail et pour l'espionner même sur Signal, puisque Fouille Merde était un virtuose.
Pour que Wafat morde à l'hameçon, il faudra que Fouille Merde demande une rémunération pour ses infos. Ça fera plus crédible.
Le plan fut mis en œuvre. Mais, déception, Wafat ne retourna pas vers ceux que l'on supposait être ses commanditaires. Silence complet. Au point qu'il fallut se demander s'il n'aurait pas eu recours au téléphone plutôt qu'aux correspondances électroniques. Les recherches de Marie-Jo furent interrompues un soir par un appel de David Elbage alors qu'il était 23h45.
Madame Liégeois, ça y est, ils sont passés à l'action. J'ai prévenu la police qui est en route. Venez vite.
Aussi sec, Marie-Jo, qui ne s'était pas encore couchée, mit en toute hâte son imperméable et sauta dans sa voiture pour foncer vers le boulevard Suchet. Quand elle y parvint, le GIGN était déjà sur les lieux et les malfaiteurs arrêtés, parmi lesquels elle reconnut Abdul Wafat et Walid Serpialine, son habituel comparse. Ils avaient été surpris alors qu'il faisait le guet dans une voiture juste devant l'immeuble. Qu'attendait-il ? Ils ne le dirent pas lors de l'interrogatoire par la police. Car on le sait, Wafat est un taiseux. Mais la fouille de leur voiture, et surtout de leur téléphone, parlèrent à leur place. En effet, les policiers trouvèrent dans la voiture tout un matériel, tout un équipement symptomatique de ce qu'on appelle une tentative de braquage. Des liens, des cordes pour immobiliser Elbaz, une cagoule, plusieurs paires de gants, un pistolet et des couteaux. Tout un matériel destiné à menacer leurs victimes. Plus révélateur encore, les portables. Et surtout celui du sieur Abdoul. Contenait une liste de numéros d'appels que les policiers montrèrent à Elbaz qui à son tour la donna à sa protectrice. Celle-ci ausculta de près la liste, espérant y trouver un numéro en Iran, ou au moins à l'étranger, dans l'espoir d'identifier les commanditaires. Rien, malheureusement. Cependant, sur ce document, un numéro apparaissait fréquemment, toujours le même. C'était un numéro français. Elle chercha et se renseigna, et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir son détenteur, Marcel Matisse. Le secrétaire du comité d'entreprise lui-même. Que venait-il faire dans cette galère ?
Fouille-merde avait la virtuosité d'un danseur de passo doble. Et grâce à cette virtuosité, on parvint à partir du portable confisqué à retrouver les conversations tenues entre Wafat et Matisse. Elles étaient édifiantes.
T'as réussi à le localiser ? Oui, c'est lui qui doit en avoir le plus, car c'est pas que pour lui. Il gère aussi pour d'autres. Donc c'est un bon paquet de crypto que tu vas trouver dans la maison. Il y aura une bonne commission pour toi si tu ne les attrapes. Combien ? Dis ton chiffre. 100 ? Est-ce que 80 tirés en euros ou en crypto ? En euros, du cash. Si tu veux du crypto, on pourra te servir tout de suite. Mais si tu veux du cash, faudra attendre que je touche mon indemnité. Quand ? Ils vont me virer dans peu de temps. Du crypto alors ? Je préfère pas attendre.
Cette conversation, même si elle était peu développée, prouvait toute la préméditation du projet d'enlèvement d'Elbaz, mais elle prouvait aussi qu'il y avait pour Matisse une histoire d'indemnité à percevoir. Que venait-elle faire ici ? Et pourquoi aurait-il été viré ? Marie-Jo se dit qu'il lui fallait éclaircir cette question. Elle interrogea le trésorier qui se renseigna plus à fond. La société de téléphonie où les deux compères travaillaient avait effectivement l'intention de se séparer de Matisse. Le motif demeurait obscur, car ce salarié efficace n'avait jamais donné lieu à faute professionnelle ni même à mécontentement. Pourquoi donc licencier un bon élément ? Les policiers conduisirent leur propre enquête. Et patience et longueur de temps, ils découvrirent que Matisse avait monté avec quelques autres salariés du groupe une petite société de courtage et surtout de contrôle des ventes de téléphones, nommée Together Phone, qui avait conclu d'importants contrats avec le groupe, lequel externalisait ainsi certaines opérations.
L'astuce était habile,
se dit Miss Liégeois.
Matisse conclut plusieurs jeux de contrats pour externaliser certains services quand il étend la société, puis il se fait licencier du groupe, touche au moins 100 000 euros d'indemnité, après quoi il rejoint Together Phone qu'il va diriger et perçoit ses bénéfices. Bien joué, non ?
Qui est le dindon de la farce dans cette affaire de favoritisme ? Le groupe, bien sûr, mais aussi ses actionnaires, donc partiellement l'État. Car les opérations confiées à Together Phone furent multipliées par 3 grâce aux ingénieuses interventions de notre homme, juste avant d'être licencié, et même un peu après. Mais quel était le lien entre le vol projeté des crypto-monnaies et ce conflit d'intérêts? Les nuages qui recouvraient ce mystère devenaient de plus en plus épais. Il était urgent de les lever.
Vous venez d'entendre la 6e partie du récit Marie-Josette Liégeois. Rendez-vous vendredi prochain avec Patrick Simon pour les histoires à la loupe. Histoire à la loupe.